Ça me donne un énormément grand plaisir de pouvoir te contredire, ou en tout cas de mettre certains bémols à ce que tu viens de dire. 40 ans après la première fois où je t'ai entendu donner une leçon quand on était au gymnase et que tu es venu faire un remplacement. Alors, certainement, je vais utiliser beaucoup de choses qui viennent d'être dites maintenant, mais je vais alors certainement mettre des points qui mériteront d'être discutés ensemble tout à l'heure, vous allez voir. Effectivement, la génétique est extrêmement souvent mentionnée, et puis on parle d'un gène pour une telle attitude politique ou une telle façon de vivre sa vie économique, ou voire un gène de Dieu, j'y reviendrai tout à l'heure. Et en fait, on parle très souvent de la génétique des gènes dans les médias. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il s'agit là d'une toute puissance, une information qui est là, inéluctable, qui motivera l'ensemble de notre vie, ou alors même que notre société finalement pourra maîtriser ultérieurement la cause des causes, la cause première des problèmes qu'on a et de manipuler ou de conduire la société d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais vous montrer que c'est vraiment pas le cas, et c'est certainement pas le cas non plus dans la pire des situations génétiques, c'est-à-dire à l'endroit où il y a une maladie définitivement génétique, c'est-à-dire une maladie due à une mutation spécifique d'un gène. Et pour exemple, puisqu'on m'a demandé de donner en fait des états de mon activité professionnelle, clinique et dans la science, dans la recherche, je vais vous parler effectivement de quelques-unes des observations que j'ai faites. Alors la première, c'est cette maladie de Huntington. Huntington, que vous voyez là, avait repris la description d'une maladie qui était connue, c'est-à-dire la chorée. La chorée, qui est une maladie, comme le nom l'indique, une danse où on voit les patients avoir des mouvements de danse, accompagnés de troubles cognitifs, accompagnés de troubles psychiatriques. Et Monsieur Huntington, à l'époque, a décrit sa forme héréditaire, parce que suite à des observations qu'il avait faites dans le New Jersey, il avait reconnu une famille qui souffrait de cette maladie. Il a reconnu son hérédité avec une autosomique dominante. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cette maladie est une maladie terrible, en fait, comme il y en a d'autres, mais celle-là, d'une manière toute particulière, vous allez voir pourquoi, elle regroupe des troubles neurologiques, neuropsychiatriques, cognitifs, dans différents domaines, tels que, justement, les troubles moteurs, ces mouvements incontrôlés, la chorée, une maladresse motrice, une perte d'équilibre, une dysarthrie, et une trouble de la déglutition, tout ça d'une manière progressive sur plusieurs décennies, avec finalement une impossibilité totale de se mouvoir, une impossibilité totale même de bouger et de parler. Des troubles psychiatriques tels que dépression, troubles de la personnalité, une irritabilité, une anxiété, plus tard une apathie, des comportements anormaux tels qu'obsessifs, compulsifs, une manie, des délires, hallucinations, voire une psychose franche, avec aussi un risque accru de suicide chez ces patients. Et finalement, les troubles cognitifs qui peuvent finalement précéder les troubles moteurs et les troubles psychiatriques, avec fonctions exécutives avant tout, qui sont perturbées. C'est l'électricien qui essaye de mettre les fils ensemble et qui, voilà, n'arrive plus à le faire et qui, voilà, le premier signe de cette maladie chez lui. Diminution de la mémoire, ralentissement mental, perte de la flexibilité, le changement de caractère des personnes qui étaient peut-être douces précédemment changent et deviennent très intransigeantes et avec qui une certaine agressivité vis-à-vis de leur entourage. Si on procède à une imagerie du cerveau chez ces patients, on voit sur cette image ici, vous voyez que cette partie ici du cerveau, ces ganglions de la base, comme on les appelle, où justement des fonctions telles que ces fonctions motrices et ces fonctions neuropsychiatriques sont localisées, vous voyez ici qu'il y a une atrophie sélective qui est suivie plus tard par une atrophie générale du cerveau. Et si vous voyez un cas normal, vous rencontrez ces ganglions de la base qui ont un aspect normal. Au niveau de l'autopsie, on voit la même chose. Ici, vous avez une moitié de cerveau d'un patient atteint de la maladie de Huntington, avec effectivement cette atrophie généralisée, plus tard encore chez lui, et spécifiquement d'une manière claire ici dans les ganglions de la base, alors qu'ici, vous avez une moitié de cerveau qui est d'un sujet normal. Et au niveau de l'histologie, vous reconnaîtrez tout de suite une grande différence entre ce tissu totalement désorganisé par rapport à un tissu normal. Ce phénomène de diminution, d'atrophie du cerveau commence bien avant l'apparition du premier signe de la maladie. On peut, d'une manière assez claire, calculer le début de la maladie en connaissant l'âge de la personne et le nombre d'une certaine caractéristique de la mutation que ce patient a. Je reviendrai tout à l'heure sur ce thème-là. Bref, on peut dire que cette personne qui a un risque d'avoir cette maladie, puisqu'elle provient d'une famille qui a cette maladie, qu'on peut prévoir approximativement à quel moment elle se trouve par rapport au début de la maladie. Alors ici, vous voyez que plus de 10 années avant le début présumé de la maladie ou le prédit de la maladie, on retrouve déjà une certaine atrophie qui est indiquée ici par les couleurs différentes. Et cette atrophie, plus on s'approche du moment de la déclaration de la maladie, cette atrophie augmente. Et une fois qu'on est dans le stade même de la maladie, stade 1, stade 2, et stade précoce de la maladie, déclaré maintenant, on voit que cette atrophie augmente encore. Et voilà ici le graphique qui vous montre ceci. Et comme je disais tout à l'heure, une maladie héréditaire, une maladie avec transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que dans chaque génération de cette famille ici, vous voyez les figurines pleines sont les personnes atteintes de la maladie, et vous voyez que ces personnes sont recrutées ou sont retrouvées à chaque génération de cette famille, et que des hommes et des femmes, d'une manière plus ou moins similaire, sont atteints de cette maladie. Voilà, alors ce qui fait que cette personne ici, ou ces autres personnes-là, ont vu peut-être leur grand-père, leur mère, peut-être leur frère, être atteint de la maladie et passer au travers de ces stades terribles de cette maladie au cours d'un laps de temps, peut-être d'une vingtaine d'années. Alors il y a différentes phases d'un vécu de cette maladie. Il y a une première phase de vivre avec le risque. Et même des enfants déjà se rendent compte de ce problème-là. Lors de conseils génétiques de patients qui finalement se sont avérés n'avoir ou ne pas avoir cette maladie, j'ai parfois posé la question, à quel moment avez-vous commencé de réaliser que quelque chose ne jouait pas dans votre famille par rapport à une maladie, par rapport à cette maladie? Alors on m'a dit, chez des jeunes filles, que déjà vers l'âge de 6, 8 ans, elles se rendaient déjà compte que quelque chose ne jouait pas, soit avec leur grand-mère, soit avec leur oncle, même plus tard avec leurs parents. Et qu'à un moment donné, ces gens-là se rendent compte qu'il y a un problème dans la famille et se rendent compte qu'eux-mêmes ont un certain risque, d'être atteints par ce même problème, cette même épée de Damoclès qui est là dans la famille. Plus tard vient le moment de se poser la question, est-ce que je veux savoir? Est-ce que j'ai la possibilité de savoir? Voilà, on voit qu'il y a la famille, ce gène, cette maladie qui court. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux savoir? Plus tard, les premiers signes de la maladie. Alors, les premiers signes de la maladie, en général, c'est vers l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Rarement plus tôt, même des enfants, rarement aussi plus tard. Bref, à un moment donné où peut-être les personnes ont déjà eu des enfants ou sont au moment de vouloir faire des choix de savoir s'ils veulent avoir des enfants. Plus tard, les premiers signes de la maladie justement qui apparaissent, plus tard la maladie déclarée elle-même, d'abord une perte de travail, perte des relations sociales, du tissu social, retirement. Plus tard, les symptômes tels que je vous ai démontré tout à l'heure, et ces stades qui passent de l'un à l'autre d'aggravation avec finalement le décès, mais avec une longue phase d'une dépendance totale des personnes qui prennent soin, soit de la famille, soit de home. Voilà. Alors, quelque chose que les gens ont vu, et une histoire qui se répète. Alors, j'ai par exemple dans ma consultation une dame qui a vécu ça chez son propre mari, qui a revu ça chez sa fille et qui maintenant voit ça revenir de nouveau chez son petit enfant. Ou le contraire, un enfant qui a vu ça, comme je disais tout à l'heure, dans plusieurs personnes de sa famille. Voilà. Alors ici, l'exemple, on dira, d'un déterminisme, puisque c'est le titre de ma conférence, déterminisme ou liberté, un déterminisme absolu. On ne peut rien faire contre cette évolution qui est là, une fatalité absolue, un destin absolu qui est là et qui fait que voilà, on peut rien y faire. Est-ce vraiment ainsi? Alors, cette succession d'événements, de phénomènes dus à ce gène inéluctable, ce gène muté, un lien tout à fait clair, décrit par une loi physico-mathématique, biologique, qui fait que voilà, on va avancer. On peut même donner des formules à quand la maladie commencera. Je vous l'ai donné tout à l'heure sans expliquer les détails, c'est pas nécessaire ici. On peut faire des formules mathématiques qui nous montrent que voilà la façon dont les choses vont se passer. Pas de possibilité de choix, on a le gène, on l'a pas. Si on l'a, ben on est malade. Si on l'a pas, il y aura autre chose, mais pas ça. Voilà. Alors, un déterminisme absolu, non. Non. J'ai vécu ou rencontré suffisamment de gens atteints par cette maladie, suffisamment de familles atteintes par cette maladie pour vous dire que ce n'est pas le cas. Un exemple. J'ai dans la consultation une dame qui maintenant est atteinte très sévèrement par cette maladie. Et ensemble, avec son mari, ils avaient ensemble un bureau d'architecture. Un bureau d'architecture où ils ont fait des projets très, très intéressants et très, très beaux, qu'on peut même voir dans la région particulière là où on habite, et qui ont travaillé ensemble à ces projets. L'homme a continué de faire son travail comme architecte et son épouse devenait de plus en plus, avait des difficultés à pouvoir mener ce travail à bien. Mais ils ont continué de le faire ensemble. Dans la mesure du possible, elle contribuait encore à des idées créatrices pour ce travail d'architecte, à établir des endroits. Il m'a même dit, voilà, cet endroit, c'est la dernière chose qu'on a fait encore ensemble. Mais à un moment donné, ben voilà, elle ne pouvait plus, par rapport à ses troubles cognitifs et ses troubles moteurs, ne pouvait plus vaquer à cette tâche créatrice. Néanmoins, il la prenait toujours encore. Ils allaient ensemble au contact des clients, ensemble, pour manifester leur unité et leur qualité de vie. Et une qualité de vie tout à fait extraordinaire que j'ai vue chez ce couple. À tel point que plus tard, eh bien, il a dû lui-même aussi quitter son travail pour pouvoir s'occuper d'elle. Mais il m'a dit, écoutez, c'est quelque chose qui nous est arrivé, mais je le prends du bon côté, du point de vue positif. J'ai appris beaucoup de choses dans cette situation-là. Il me l'a même dit en étant gêné, en disant, mais c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire. Mais voilà ce qu'il m'est arrivé. Alors j'ai eu le plaisir, effectivement, de l'encourager en disant cela. Ben oui, voilà une destinée que vous avez prise en votre main. Et vous avez montré, je ne l'ai pas dit ainsi, mais voilà la leçon que j'en tire, montré une liberté par rapport à ce déterminisme absolu. Et on connaît beaucoup d'autres exemples, et on sait aussi que c'est toute une phase de développement au travers de l'angoisse, de l'acceptation du combat, de l'acceptation de la non-acceptation à nouveau, un combat pendant toute la vie de ces gens et de leur famille. Mais on sait aussi que si dans certaines familles une telle maladie peut détruire totalement le tissu familial, dans d'autres familles, cette même maladie peut le renforcer, ce tissu familial, ce tissu social, dans la prise en charge mutuelle des gens qui souffrent de cette maladie. J'ai aussi vu beaucoup d'amour et de compassion de gens qui s'occupent de ces malades-là. Dans notre centre Huntington à Berne, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont pu prendre en charge, non pas ce déterminisme, mais montrer une liberté humaine dans le respect de ces personnes, dans le respect de leur souffrance, mais dans le respect de, voilà, une personne, même si elle se désagrège totalement jusqu'à la mort, mais une personne qui est là et qui reste et qui a sa valeur humaine, humain malgré tout. En fait, quelqu'un me disait de la société Huntington, écoute, il y a deux sortes de personnes qui arrivent à s'occuper des gens qui ont la maladie de Huntington, soit ceux qui le font avec passion, avec un feu, ou alors ceux qui ne peuvent pas le faire ont plutôt intérêt à laisser tomber, à s'occuper d'autres choses. Donc ici, un déterminisme absolu, non, une liberté qui peut être vécue malgré tout dans ce déterminisme horrible, je le répète encore une fois. Quels sont les effets de l'environnement? Alors ici, j'en nomme un premier. La spiritualité et la religion. Ici, il s'agit d'un petit nombre de cas qui ont été décrits de l'expérience religieuse intense sur la symptomatologie uniquement motrice d'un maladie de Huntington. Alors, voyez ici plusieurs observations avant, avec une augmentation des symptômes au cours du temps. Et puis après, cette expérience religieuse intensive qui montre que pendant un certain temps après cette expérience religieuse, une amélioration de la symptomatologie qui a pu être présente. Voilà. Alors, encore une fois, une maladie héréditaire. Une maladie héréditaire où ces personnes ici savent qu'ils ont un risque, même ceux-ci ici, parce qu'il se pourrait que la maladie ne soit pas encore déclarée chez ces personnes ici, parce qu'il y a une certaine variation de l'âge de début, et des personnes à risque qui se posent la question, est-ce que j'ai cette maladie ou est-ce que j'ai ce gène qui, plus tard, va amener à cette maladie? Et maintenant, tout le monde sait qu'il y a des gènes et tout ça, donc on peut se poser la question, de savoir ou de ne pas savoir. Alors il y a toute une marche, une démarche qu'il faut suivre pour participer à un test génétique et c'est important de la suivre. Alors pas de la suivre d'une manière absolument légaliste, je dirais, mais en tenant compte des aspects principaux et importants. Les aspects importants, c'est surtout de connaître la motivation de la personne qui approche le test génétique. Pourquoi ? Pourquoi veut cette personne veut savoir ? C'est important d'explorer cette motivation parce qu'on sait que si la motivation n'est pas claire, n'est pas bien établie, qu'après, des problèmes plus grands peuvent survenir. Alors que si la motivation est claire et que l'approche du test génétique est claire et bien établie, qu'après les complications sont beaucoup moins grandes. Alors ici on a un exemple chez une personne à risque qui n'a pas encore de symptômes. Une première consultation où on discute de la motivation, on informe sur la maladie. En général, les gens savent beaucoup parce qu'ils ont vécu leur famille, et ils ont participé à des séances d'information. Mais on regarde tout ça et on l'examine du point de vue personnel et du point de vue de leur famille. On leur offre bien sûr un support psychologique, ça c'est bien clair, pour être sûr que cette personne arrivera à passer ce cheminement terrible de faire face à l'information ou de savoir si on veut le faire ou non. Ensuite, on leur voit la personne une fois plus tard et on réexamine la chose, on complète l'information. Et si la motivation est estimée claire, bien établie chez cette personne, et parce que la personne elle-même le souhaite et non pas la copine parce qu'elle a envie de savoir ce qui se passera après, si vous voulez avoir des enfants ou le père ou la mère qui a envie de savoir ce qui se passe chez leur propre enfant, non, la motivation claire chez la personne. Et encore, la personne, et la loi est claire à ce sujet-là, la personne doit être majeure pour prendre une telle décision d'un test génétique pré-symptomatique. Voilà. Alors, cette personne établit suffisamment son consentement éclairé, qui est aussi établi par écrit, prise de sang. Et la troisième consultation, la personne revient et on lui laisse toujours encore le choix, jusqu'à ce moment-là, de vouloir décider de savoir ou non. Alors rarement, mais ça arrive, cette consultation-là, la personne dit non, finalement, je ne veux pas savoir. Alors on pose le résultat de côté en lui laissant cette autonomie, cette liberté de choix à savoir ou non maintenant ou plus tard. Et ensuite, bien sûr, on revoit la personne pour savoir comment ils ont travaillé cette information et comment ils peuvent la vivre. Et aussi curieuse que la puisse paraître, l'information reçue peut être avoir des conséquences terribles pour la personne, indépendamment du contenu même de l'information. C'est-à-dire que une information en lui disant ou en lui disant à elle, écoutez, vous n'avez pas le problème génétique, vos gènes sont tout à fait normaux, donc vous n'avez pas cette mutation, vous n'aurez pas la maladie, peut précipiter la personne dans une dépression, tout autant que de lui dire, écoutez, vous avez le gène et vous allez avoir cette maladie qui ensuite, parce que maintenant on sait, remplira la personne d'une paix intérieure, de savoir à quoi on a à combattre maintenant, alors qu'on ne savait pas avant, ben maintenant on sait, et puis on peut aller de l'avant, et puis combattre, travailler contre la maladie. Voilà un petit peu cette histoire du test génétique. Alors là, encore une fois, un déterminisme, bien sûr, la maladie, ben, le risque, il est là, on peut pas... C'est inéluctable. La personne qui, dans le père ou la mère, a cette maladie, a une probabilité de 50% elle-même aussi d'avoir ce gène et donc plus tard d'avoir la maladie. Mais quand même une liberté de choix de savoir, une liberté de choix de vouloir prendre le choix aussi de vie, de savoir. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être important de savoir? Est-ce que du point de vue chrétien, du point de vue de l'enseignement biblique, est-ce que cette idée de savoir pourrait peut-être être justifiée? Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails théologiques qui me paraîtraient intéressants d'explorer, mais quand même le fait, ou cette parabole de la personne qui s'assoit et qui réfléchit aux moyens qu'elle a pour construire sa maison et qui ensuite décide, au vu des ressources qu'elle a à disposition, de faire telle ou telle chose, est quand même quelque chose qui est ancré dans la parole. De faire face à ces défis, dangers et défis, savoir la vérité. La vérité en soi est toujours quelque chose de positif. Bien sûr, il faut qu'elle soit amenée de la bonne manière, et ça c'est la question du test génétique et de l'exploration de cette motivation pour soutenir, aider cette personne à avancer dans cette évolution. On pourrait avoir l'attitude opposée en tant que chrétien en disant, mais finalement on fait confiance en Dieu et on ne recherche pas cette information. Et on attend que les choses viennent telles qu'elles viennent. Mais ce qui n'a pas des responsabilités aussi vis-à-vis d'autres personnes de la famille, vis-à-vis aussi de la société, évidemment vis-à-vis de sa propre fondation d'une famille et d'avoir des enfants. Et je pense en tant que par rapport à mon expérience que c'est important, la vérité et la clarté est toujours, mais encore une fois, amenée de la bonne manière, plus judicieuse que l'ignorance et de ne pas savoir. Parce que finalement, les choses se manifestent quand même, et la crainte et le souci d'avoir la maladie est là quand même, et d'amener une clarification au bon moment, au moment donné, est judicieuse. Voilà. Alors maintenant, on va observer directement ce gène. Ça, c'est pas ça. Là, ça, c'est des fleurs dans un temple au Thaïlande. Voilà. Le gène lui-même. Alors, on le représente plus tellement de cette manière-là, puisque maintenant, on a les lettres qui sont inscrites là, mais pour vous dire que ce gène, on peut le mesurer la grandeur du gène. En fait, il s'agit d'une répétition d'un élément qui est normalement répété un certain nombre de fois, au maximum, les chiffres sont un petit peu changés là, mais à peu près une trentaine, 35, et puis s'il y a un plus grand nombre, eh bien la maladie risque déclarée, comme c'est le cas ici. Alors on a toujours un des gènes qui a une grandeur normale, et l'autre gène qui est malade chez ces individus, et ça c'est des répétitions du même test fait plusieurs fois. Alors, une augmentation de ce nombre de répétitions qui fait que les gens sont malades, elle est ou on le risque d'avoir la maladie pour autant qu'ils vivent suffisamment longtemps pour qu'elle se déclare, encore une fois, jusqu'à l'âge approximatif de 40-50 ans. Alors, vous voyez ici la distribution de cette élongation du nombre de ces répétitions chez les sujets normaux, et c'est les sujets qui ont la maladie de Huntington, encore une fois, cette limite ici, et comme vous voyez, avec un nombre plus grand de répétitions, et je reviendrai sur ce nombre tout à l'heure. Avec ici, encore une fois, ces chiffres, donc une personne qui a moins que 26 sera normale et sera non affectée, et n'aura pas d'enfants qui auront la maladie eux-mêmes, ça complique un peu le tout. Il existe une région intermédiaire où les personnes elles-mêmes ayant ce nombre-là de répétitions n'auront pas la maladie, mais risquent de la transmettre. Et les personnes qui sont affectées avec une pénétrance réduite, c'est-à-dire que la maladie sera présente, mais elle commencera bien plus tard, et le phénotype ou la gravité de la maladie seront moins importants, alors que plus avec ce nombre-là plus grand, on aura une pénétrance complète pour autant que justement on vive suffisamment longtemps. Alors, ici, je vous donne un exemple de la relation entre ce nombre de répétitions de l'allèle malade, donc le gène malade, combien de ces répétitions on compte, voilà, ici on les compte, et l'âge du début de la maladie. Là, c'est dans un groupe de patients en Chine, et vous voyez que plus il y a de répétitions, plus la maladie commence à un âge précoce. Et moins il y a de répétitions, plus la maladie commence à un âge tardif. Alors maintenant, on peut se poser la question, et là, Peter, tu me posais la question, quelle est l'évolution au niveau de société de la maladie dans le futur? Est-ce que la prévalence va augmenter ou diminuer? Alors on pourrait dire, on fait simplement un diagnostic prénatal, simplement on empêche les gens qui ont cette maladie d'avoir des enfants, et puis on bloque, et puis la chose est terminée. Eh bien non, c'est pas ainsi parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette propension à ce que ce nombre de répétitions change et que d'une génération à l'autre, ils augmentent et qu'on atteigne la maladie. Évidemment, plus les gens deviennent âgés, plus cette probabilité d'avoir soi-même la maladie puisqu'on devient plus âgé. Encore une fois, on passe dans cette direction-là, donc moins de répétitions, mais comme on devient plus âgé, eh bien voilà, la maladie peut se déclarer. Ça, c'est une chose. Et aussi, on a les enfants à un âge plus élevé, et le risque à ce moment-là que ces répétitions aient augmenté, peuvent avoir augmenté. Alors là, il y a une question de discussion dans le déterminisme pour la société ou une liberté pour la société. Là, je ne vais pas m'entrer dans cette discussion-là. On a eu des bribes de ces discussions-là dans les contributions précédentes. Juste pour dire encore une un autre élément qui va aussi dans ce sens-là, on a parlé tout à l'heure, on a entendu cette notion d'évolution. Alors on peut regarder le nombre de répétitions dans différentes populations. On peut par exemple faire une comparaison entre, évidemment on ne peut pas aller prendre des homo sapiens qui ont vécu il y a 10 000 ans. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre des êtres proches de l'homme, qui par exemple sont le singe, les primates, qui ont un certain nombre de répétitions. Ce nombre est relativement bas. Alors, si on veut penser d'une évolution entre les primates et l'homme, alors on pourra penser qu'effectivement, il y a eu une augmentation du nombre normal de ces répétitions entre l'un et l'autre. Mais sans aller dans cette discussion-là, on peut aussi considérer des populations dans différents pays qui ont une base plus ou moins grande. C'est-à-dire que, par exemple, au Japon, il y a un certain nombre de gens qui sont allés une fois habiter dans cette île et la population a germé d'un petit groupe relativement petit de personnes. Et cela, il y a un temps moins long que, par exemple, en Afrique. Alors, effectivement, donc on s'attendrait, face à cette population de base qui est plus petite, que le nombre de répétitions soit moins grand, puisque l'histoire de cette population étant plus courte, le nombre de répétitions est moins grand. Et c'est effectivement ainsi qu'au Japon, le nombre de répétitions est moins grand, et c'est aussi ainsi que la prévalence de cette maladie est moins grande que dans d'autres populations, dont la base est plus grande et probablement aussi l'histoire plus longue. Donc le risque qu'une telle maladie augmente dans sa prévalence est relativement grand. Mais là, j'entre alors effectivement pas dans la question de génique de société par rapport à ça. Voilà. Alors on a parlé déjà des bases de l'éthique biomédicale. Et on y est directement confronté soi-même lorsque on envisage des discussions avec les personnes affectées, par exemple dans le cadre du test génétique. Et le respect de l'autonomie est une chose qui est très importante. Mais on a dit aussi déjà tout à l'heure, ce respect de l'autonomie est dans la relation que j'ai avec la personne qui vient pour me consulter au niveau d'un test génétique à faire ou à ne pas faire. En principe, une autonomie devrait être libre et capable, libre des afférences et interférences, je dirais, pas sous influence. Mais évidemment, la personne qui déjà vient consulter est déjà sous l'influence de la peur, de la crainte, de voir ce qui va se passer, est-ce que vraiment elle est autonome. À nous, conseillers génétiques, de respecter cela. Et pour moi, la chose principale, c'est de pourvoir la personne avec toute l'information nécessaire pour qu'elle puisse prendre ce choix, tout en la respectant, et tout en considérant aussi le fait de ma propre fragilité dans cette interaction avec la personne. J'ai bien aimé quelqu'un a dit tout à l'heure, la fragilité, c'est bien de ça, et la crainte personnelle que j'ai moi-même quand la personne vient pour ce test génétique. Et cette rencontre-là, tout à fait particulière et tout à fait spéciale, avec évidemment une grande empathie, une participation personnelle intense à ce qui se passe là, et d'autant plus que je connais la famille, je connais les parents, je traite les parents, etc. Donc il y a tout un aspect qui dépasse totalement la simple technicité de ces bases d'éthique biomédicale qui ne les contredit pas du tout, certainement pas, mais qui montre que, en tant qu'enraciné dans notre relation personnelle avec le Dieu créateur, peut donner une autre dimension qui dépasse totalement, encore une fois, la simple technicité de légaliste de ces bases. Et une notion complémentaire aussi qui est très claire, la notion d'amour, d'aimer ces personnes qui viennent et leur famille à ce test génétique ou encore plus quand la relation augmente avec ces personnes au cours du développement de leur maladie ou dans ces familles-là, cette notion de l'amour. L'amour de la personne créée qui est là vis-à-vis de nous. Voilà. Alors je quitte un tout petit moment maintenant la maladie de Huntington pour aller à des choses où d'autres questions éthiques se posent aussi, et des questions de déterminisme et de liberté, peut-être justement d'absence de liberté, qui me pose à moi un problème encore plus grand que cette maladie de Huntington, puisque là j'ai très clairement perçu cette notion de liberté possible chez la personne, chez la famille et chez nous, vis-à-vis de cette, dans le cadre de cette interaction avec eux. C'est cette famille-là. Alors, il y a, les données sont un peu controversées, mais c'est un bon exemple quand même pour examiner certains aspects. Alors là, c'est une famille, dans un certain pays, enfin, c'est en Hollande, en l'occurrence, où les hommes ou les garçons pas les femmes ou les mères, présentent un retard mental et un comportement extrêmement agressif avec homicide, avec violence, et qui arrive par épisode. Alors, il y a des épisodes avec un trouble du sommeil qui leur tombe dessus spécifiquement s'ils ont eu une grande angoisse ou une grande colère avant. Par exemple, un des cas, était qu'il a perdu son père et qu'il est tombé à ce moment-là dans une phase terrible de trouble du comportement avec cette violence, avec agression sexuelle, des sœurs, par exemple, qui font que, évidemment, ces familles-là sont totalement perturbées et qu'on a une grande crainte de ces quelques hommes, comme vous voyez ici, qui sont là. Alors, on a mesuré chez ces gens ce qu'on appelle la monoamine, les monoamines, sans entrer dans les détails, c'est un neurotransmetteur ou un métabolisme de neurotransmetteur qui aura affaire effectivement avec le contrôle du comportement au niveau cérébral. Et qu'ensuite, ils ont trouvé une mutation spécifique qui est là chez ces personnes qui ont ce trouble de comportement et qui est absente chez les autres. Alors, encore une fois, on peut discuter de ces données, mais néanmoins, ces données ont fait que des cas ultérieurs d'homicides, on a voulu faire passer au niveau du jugement de limiter la peine en disant que, enfin, en l'occurrence, quelqu'un a effectivement amené ce cas en disant, mais écoutez, j'ai cette maladie-là, alors testez-moi, puis vous verrez que j'ai cette maladie-là, et puis vous allez devoir ainsi diminuer ma peine par rapport à ce que j'ai fait là. En l'occurrence, j'ai pas le mot en français, le guériste, comment dire guériste en français? Le juge, oui, mais c'est pas le juge, c'est tous ceux qui s'entourent avec lui. Enfin, le tribunal, merci, voilà, le tribunal a décidé que non, on pouvait pas entrer en matière parce que les données scientifiques, voilà, étaient pas assez, voilà. Mais néanmoins, se pose la question, effectivement, de la responsabilité du comportement par rapport à des troubles génétiques. Alors, si on prend d'une manière plus générale, je pense que certes, les gènes peuvent donner une propension à avoir un tel ou un tel comportement, peut-être aussi un bon comportement, mais que finalement, l'action elle-même, et c'est ça qui est jugé, l'action elle-même est faite ou bien n'est pas faite. Bref, ça donne ces choses comme ça, des idées, ces données donnent des discussions très importantes. Alors, ça va de la discussion à dire que, ben voilà, finalement, l'évolution pure est le moteur même du comportement et qu'il ne faut surtout pas envisager quoi que ce soit de moralité ou d'éthique. Simplement, c'est la nature, l'environnement ou l'éducation ne joue pas de rôle. Quand vous observez absolument matérialiste de la nature, qu'on peut laisser finalement tomber les dimensions morales, spirituelles, que de toute manière, la science, en connaissant mieux ces domaines-là, arrivera finalement à corriger les choses, c'est-à-dire que si on connaît suffisamment de gènes, on pourra simplement les corriger et ainsi amener une amélioration de la société. Voilà. Alors, est-ce que c'est ainsi ou non? Alors, certainement non. Et l'environnement joue un grand rôle. Et là, je vais passer à un autre domaine qui n'est pas le domaine de mon conseil génétique, non. Voilà, un oiseau. Et les oiseaux ont l'habitude, comme vous le savez, de chanter. Alors, le chant de l'oiseau se développe entre l'éclosion et la maturité sexuelle, pour des raisons bien claires. Et voilà, le chant, d'abord, il n'est pas bien modulé, et au cours de l'évolution, donc il y a une mélodie qui est simple, quasiment une mélodie autonome, qui est là, simplement les cordes vocales de l'oiseau, si on souffle dedans, voilà, ça donne une mélodie. Mais ensuite, il y a toute une évolution, un développement de cette mélodie jusqu'à la maturité sexuelle. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut disséquer les influences du chant de l'oiseau en examinant la neurobiologie de cet oiseau? Alors oui, il existe dans le cerveau, alors là on n'entre certainement pas dans les détails, et surtout pas dans les détails comparatifs avec l'homme, qui parfois chante aussi, simplement qu'il existe des réseaux et des endroits dans le cerveau qui sont à la base de ce comportement d'oiseau pour chanter. Et que dans leur développement, ces différentes places dans le cerveau, ces différents endroits, expriment ou certains gènes spécifiques sont exprimés dans le cours du développement. C'est-à-dire que les gènes, ils sont là tous, on a entendu parler tout à l'heure, mais ils ne sont pas actifs ou présents ou exprimés à chaque moment de la vie dans chacune des cellules. Autrement, on n'aurait que des cellules de cerveau, c'est peut-être bien, ou que des cellules, je ne sais, d'autre part. Voilà. Alors ici, vous voyez ici le temps de développement de ce champ de l'oiseau et l'expression de ces différents gènes au cours du développement de ces régions du cerveau. Alors on peut perturber plusieurs de ces développements génétiques ici en perturbant l'expression de ces gènes. N'entrons pas dans les détails, mais juste pour savoir qu'on peut stopper ou augmenter certains gènes chez les animaux. Voilà. Alors ici on revient à notre développement. Si on provoque ainsi un déficit génétique, alors on aura une perturbation de cette mélodie simple. Mais si on enlève les oiseaux de leurs congénères, c'est-à-dire en l'occurrence des parents de l'oiseau, eh bien on aura aussi un déficit d'apprentissage. Et les deux jouent un rôle, tant l'aspect génétique qu'évidemment l'aspect d'apprentissage, donc l'aspect de l'environnement. Voilà. Un autre exemple, alors cette fois-ci tiré de la biologie humaine, est la phénylkétonurie. Alors, laissez tomber le nom, juste savoir qu'il s'agit d'un trouble enzymatique qui fait qu'une certaine substance qui est prise dans la digestion ne sera pas métabolisée dans le corps. Ce qui fait que, d'une part, on aura un manque de cette autre substance dont le corps aurait besoin, mais surtout, on aura une accumulation de substances qui pourraient être toxiques. Effectivement, elles le sont, puisqu'on a chez ces patients qui ont ce problème-là une retardation mentale, une hyperactivité, des malformations, une épilepsie et des troubles du mouvement. Ce qu'on peut faire, et ça se fait fréquemment, et c'est un test génétique avant la lettre où on ne demande à personne si on le fait ou on ne le fait pas, en fait. On n'étudie pas l'ADN, mais on étudie simplement la présence de ces molécules perturbées dans leur métabolisme. C'est ce test qu'on fait chez tous les enfants, chez nous. On l'oublie, mais ça se fait chaque enfant qui naît maintenant au CHU. Ils sont en train de le faire chez un. Ou on prend un petit peu de sang dans ce joli pied. Il paraît que ça fait mal, mais enfin, on ne se souvient plus, nous. Et que si on trouve cette maladie, qui est heureusement rare, mais si on trouve cette maladie, on peut d'emblée faire quelque chose, c'est-à-dire faire un régime pour empêcher la gestion des substances qui contiennent de cette phényle. Si bien que si on le fait, on arrive à garder une personne tout à fait en bonne santé. Ces deux enfants ici ont les deux le même gène, la même perturbation génétique, la même mutation. Et voilà que chez elle, on a eu un régime. Chez là, on n'a pas fait ce régime-là. Heureusement, on ne peut plus faire de telles photos maintenant, puisqu'on le reconnaît chez tous. Et voilà la différence. Donc ici, une différence très fondamentale de phénotype. Ici, une fille est tout à fait normale, sauf que voilà, elle doit prendre son régime. Et ici, un garçon qui n'a pas eu ce régime et qui est malade. Pour citer d'autres exemples de manipulation de l'environnement qui change totalement l'expression d'une maladie génétique claire. Il s'agit d'une maladie génétique inéluctable. Voilà. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de cela par rapport à nos maladies génétiques, en l'occurrence la maladie de Huntington? Alors ici, on a des souris qui ont cette maladie de Huntington, c'est-à-dire qu'on peut injecter le gène de la maladie de Huntington chez ces souris. Ces souris vont se développer et puis elles auront certains comportements et certaines biochimies de leur cerveau qui ressemblent un petit peu à la maladie de Huntington, évidemment pas dans l'ensemble du phénotype, mais quand même certains aspects qu'on peut ensuite étudier et qu'on peut peut-être manipuler en prenant ces souris. Alors ce qu'on peut faire chez ces souris, c'est faire ce qu'on appelle un test de rotation, et puis ensuite ce qui est un test moteur en fait, quand de l'agilité motrice de ces souris. Alors on les pose là-dessus et la chose tourne ici, les souris agiles arrivent à rester en équilibre sur cette barre qui tourne, et celles qui sont moins agiles tombent plus vite que les autres. Alors, on a pris de telles souris avec la maladie de Huntington, on avait les modèles de la maladie de Huntington, et on a exposé un certain nombre de souris à un environnement enrichi. Alors, c'est-à-dire qu'on a pris ces souris, et dans les cages des souris, on a mis des morceaux de plastique, des morceaux de ci et de ça, plutôt que d'avoir simplement une cage à souris, sans rien qu'avec la nourriture. Et on a changé cet environnement enrichi régulièrement. Bon, je pense qu'une souris normale aura un environnement bien plus enrichi que celui-là. En laissant ça de côté, on fait la différence entre ces deux types de souris au laboratoire. Voilà. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pris ces souris et refait ce test de rotation Et dans l'environnement, voilà, normal, donc d'une souris en laboratoire, vous voyez que les erreurs ici de ces tests de rotation, c'est-à-dire le moment où elles sont tombées, beaucoup plus grandes que si on a chez ces souris un environnement enrichi. Finalement, la chose s'aggrave au cours des jours parce que la maladie est progressive aussi chez souris. On peut faire autre chose, on peut faire demander à ces souris on les accroche avec leurs pattes quelque part et puis on regarde combien de temps elles restent accrochées. Et voilà que ici, l'environnement habituel, on voit qu'il y a une péjoration beaucoup plus, l'apparition du trouble beaucoup plus rapidement et aussi une péjoration plus rapide que chez les souris enrichies. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lui-même? Alors, on peut mesurer le cerveau et on voit que chez les souris normales, il n'y a pas de changement. Et chez les souris avec un milieu enrichi, eh bien, le changement, il est faible, mais en milieu non enrichi, la perte de volume cérébral est beaucoup plus grande. Donc, une influence aussi de l'environnement dans une maladie génétique claire en l'occurrence chez ces souris. Est-ce que c'est possible chez l'homme aussi? Alors évidemment, c'est un peu plus complexe, mais néanmoins, il y a une étude qui a été faite en Australie et qu'on est en train de répéter maintenant en Europe sur l'influence du style de vie avant la déclaration de la maladie. Alors ici, on va très brièvement, mais vous voyez que un score plutôt de style de vie, passif est correspond à une déclaration de la maladie plus rapide ou plus tôt, plus précoce qu'avec un score de vie plus actif. Et on n'entre pas dans les détails, mais ici, il est clair, selon ces données ici, bien établies, que nous avons une influence de l'environnement par rapport à cette maladie avant la déclaration de la maladie. Donc, la probabilité ici aussi d'agir avant cette déclaration. Voilà. Pour finir, j'aimerais encore prendre un autre exemple. Et là, c'est peut-être là où mon point critique sera le plus important par rapport à ce que Walter nous a dit tout à l'heure. C'est le gène de Dieu. Le gène de Dieu. Voilà. Alors, qu'il y ait une propension ou une habitude plus grande à participer à des activités religieuses ou spirituelles qui soient familiales, c'est clair, pourquoi pas. Alors voilà, de nouveau en Australie, ils ont examiné des jumeaux, et comme vous le savez, des jumeaux qui ont les jumeaux qui ont le même génome auront si un caractère, un trait est plus proche que chez des jumeaux qui n'ont pas le même génome, eh bien on pourra conclure que ce trait a une caractéristique d'héritabilité. Et c'est bien un petit peu le cas, surtout chez les femmes, au niveau de l'autotranscendance comme expression ou comme mesure d'une certaine spiritualité. Alors il y a plusieurs études qui semblent un peu aller dans cette direction, donc un aspect héréditaire du fait de vaquer à des tâches religieuses, ce qui ne veut pas encore dire croire en Dieu, ça c'est encore autre chose évidemment. Mais qui fait que, voilà, il y a eu effectivement une étude qui, à l'époque, a été bien lue et publiée, une étude justement d'un gène lié au fait de croire en Dieu. Alors ici, j'aimerais juste brièvement, mais ça je peux la passer vite puisqu'on en a entendu parler tout à l'heure, parler d'une maladie génétique d'une autre, comment on cherche finalement le gène d'une maladie. Alors ici, on a une autre maladie, on ne s'inquiète pas de laquelle, et vous voyez ici de nouveau les gens malades et les gens non malades, et on cherche par étude de ces marqueurs dont on a entendu parler tout à l'heure, de voir si un groupe de marqueurs est associé avec la maladie, chez les personnes qui l'ont, et pas associé avec les gens qui sont sains. Et finalement, ça permet ainsi de pointer le gène qui est malade, plus finalement de lire ces bases du gène et de voir qu'effectivement, ce gène ici, alors encore une fois, le nom, on s'en inquiète pas, qui est normal et qui est ici muté. Et vous voyez ici qu'il y a deux lettres ici, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il y a eu une mutation. Quand on connaît ça, ensuite, on peut regarder est-ce qu'effectivement les gens qui ont la maladie ont cette mutation-là et les autres non. Et ainsi, on peut prouver que cette mutation est bel et bien liée à la maladie. Et ensuite, on peut étudier les mécanismes, c'est ce que nous avons fait ici, par exemple, de voir où ce gène est exprimé. Alors ici, ce gène il est exprimé dans des tubules des neurones, c'est-à-dire que les tubules des neurones, ce sont des, comme vous le voyez ici, des sortes d'échafaudages le long desquels les substances diverses sont transportées dans les axones. Alors là, on peut savoir précisément et décrire la mutation qui a lieu ici. Voilà. Alors ici, la différence entre une telle étude et une étude, ce qu'on appelle d'association, c'est là où on regarde ces marqueurs génétiques et de voir s'ils sont associés avec un trait, en l'occurrence ici, le fait de croire en Dieu. Alors là, on a une comparaison statistique entre deux groupes, entre le groupe de gens qui ne croient pas en Dieu et le groupe de gens qui croient en Dieu, ou en l'occurrence ici, qui ont une expression de religiosité. Et c'est une question statistique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si quelqu'un a ce marqueur-là, dire dans quel groupe il se trouve. Voilà, à mon avis, la grande différence. Là, je passe juste là-dessus, puisqu'on a un peu de cours, pour dire quelques mots critiques sur cette étude. Alors, cette étude, les résultats de cette étude, effectivement, ils ont trouvé un marqueur qui était plus souvent présent dans les gens qui avaient cette autotranscendance. Je ne dis pas exactement ça, on n'a pas besoin de savoir de quoi il s'agit précisément, mais une notion spirituelle de savoir, de relation avec Dieu ou avec un être supérieur. Alors les gens qui avaient cette caractéristique psychologique-là, eh bien, avaient plus souvent un certain marqueur que les autres. Mais voyez, si vous regardez un peu précisément les chiffres, il y a une très très faible différence statistique entre ce taux élevé. Et puis, ce résultat n'a été publié que dans un livre que cette personne a écrit et n'a jamais été publié dans une revue scientifique qui aurait été examinée par des autres personnes. Et non plus, ce résultat n'a jamais été répété par un autre groupe. Donc, à mon avis, il faut bien se veiller avec les notions de gêne, par exemple là, pour croire en Dieu, ou de gêne qui serait associé avec telle attitude économique, avec telle attitude politique, malgré ce que certains veulent bien en dire. Voilà. Pour finir, j'aimerais vous parler de... Je suis réformé, hein, mais j'aimerais quand même vous parler de Saint-Guy. Voilà. Alors Saint-Guy, pourquoi Saint-Guy? Parce que Saint-Guy, c'est le patron justement de entre autres des gens qui ont cette maladie, la chorée, qui est né en fait en Sicile, d'un païen au IIIe siècle, et qui a été nourri par Crescence, dont le précepteur était modeste, et qui s'est converti, ou qui a été instruit dans la religion chrétienne par ces deux, mais dont le père n'a pas supporté justement le fait qu'il se soit converti, qu'il se soit engagé et grandi dans la religion chrétienne, et qui a été baptisé par eux. Et le père, fâché comme il était, l'enfant a suivi la nourrice, le précepteur, pour partir ailleurs en Italie. Et à cet endroit-là, ben voilà que c'est un homme d'intercession et que, selon la légende, il aurait été nourri par un aigle, protégé des lions, et que dans son cheminement, il a, à beaucoup de moments, il aurait intercédé pour les gens. En particulier, il aurait intercédé pour le fils de l'empereur du moment, Dioclétien, et qui a été effectivement guéri. Alors cet empereur, à un moment donné, joyeux comme il était, a voulu faire un sacrifice au dieu pour remercier de cette guérison, en confusion qu'il y avait entre le dieu chrétien et les autres dieux. Et ensuite, comme lui ne voulait pas, donc Saint-Guy, participer à ces festivités qui étaient axées à un autre dieu que celui, le sien, il a été accusé de sorcellerie et on a voulu le brûler dans un pot d'huile avec la nourrice et le précepteur. Alors là, la légende diverge, soit des anges seraient venus ou des oiseaux seraient venus le reprendre de là et le ramener de nouveau dans le sud d'Italie où il serait mort plus tard à la vieillesse, ou soit effectivement il serait mort à ce moment-là. Pourquoi je cite ça, en fait, pour dire que voilà une personnalité qui a mesuré sa foi et à s'y occuper des gens avec cette maladie. Puis nous, voilà, 1500 ans après, on essaye de continuer dans ce même sens. En conclusion, donc, les maladies génétiques héréditaires nous montrent que le déterminisme n'est pas absolu. Et que je pense que la discussion, alors ce sera intéressant de l'avoir maintenant, concernant la place génétique dans la société, oui, certainement, elle deviendra importante. Je me frotte les mains de voir tous ces tests génétiques qui vont être faits et le nombre de gens qui auront des maladies neurologiques parce que les maladies neurologiques sont les maladies les plus fréquentes, puisqu'il faut le plus de gènes pour développer un cerveau, donc il y aura le plus de possibilités d'avoir des maladies héréditaires qui seront des maladies neurologiques. Donc je me réjouis du nombre de personnes qui viendront me consulter pour me poser les questions vis-à-vis de ces tests génétiques dont ils ont reçu des résultats. Mais je pense quand même, à part l'ironie, que nous avons un rôle important à relativiser et à parler d'autres choses aussi, et de recentrer ces aspects génétiques dans une vision plus globale de l'homme, et de montrer que tous les autres aspects, qui sont des aspects d'humanité, des aspects de spiritualité, dépassent totalement la pureté, si on veut, du génome. Et comme tu l'as si bien dit au début, qu'il y a cet aspect de la parole de Dieu qui est l'autre aspect, le pendant par rapport au texte du gène, et qu'il faut bien faire la balance entre les deux aussi dans notre société, et que là nous avons probablement une responsabilité. Je vous remercie ainsi pour votre attention.